Puis je pense que quand on arrête de créer dans le manque, hein, parce qu'on crée dans le manque financier, ça on va en parler, c'est sûr, en ce moment, la relation face à l'argent, souvent, on va être en création parce qu'on a peur de manquer d'argent ou qu'on veut payer une facture. Mais là, nous, on est sortis de ce paradigme-là, de ce dogme-là, et ça fait toute une différence. Parce que 2021, c'est incomparable à ce que j'ai vécu avant.
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 79.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Je suis super contente de vous retrouver comme à l'habitude. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins parce qu'on a un long épisode rempli de grosses réflexions par rapport notamment à l'argent et aux femmes, un sujet absolument crucial, essentiel. Il faut tous réfléchir à ça, il me semble. Et on a un angle intéressant aussi cette semaine parce que on va parler de tout ça puis comment c'est relié avec notre visibilité sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement le type de censure qui existe en ce moment autour de certaines conversations autour de l'argent, des femmes, de l'économie. Bref, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui qui s'appelle Geneviève Paré qui est déjà venue sur le podcast par le passé, donc je vais vous mettre les liens vers les épisodes où elle parlait un peu plus de sa vie, de la douceur financière qui est vraiment son concept fort. Et Geneviève, je l'ai réinvitée parce que je faisais une story sur Instagram, je me rappelle plus exactement c'était quoi le sujet de cette story-là, mais elle parlait du fait que elle m'avait écrit en privé pour me dire que elle avait remarqué que de plus en plus elle se faisait invisibiliser. Et je vais utiliser le terme anglais ici, shadow banning, que vous pouvez, si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, il y a beaucoup d'articles là-dessus, qui, dans le fond, ça constitue le fait, par l'algorithme de certains réseaux sociaux, de bloquer la visibilité à certains comptes qui vont initier dans l'algorithme des genres d'avertissement, donc certains mots ou certaines terminologies ou certaines utilisations qui pourraient être considéré comme, je sais pas comment dire ça, pas politically correct ou qui va à l'encontre du discours établi. Et puis, le shadow banning a été beaucoup critiqué, cette pratique-là, et même qu'il y a beaucoup, pendant un certain temps, c'était même pas accepté comme étant une pratique qui se passait sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment, c'est un endroit où on peut s'exprimer librement. Mais la réalité, c'est que beaucoup de créateurs et de créatrices ont remarqué par rapport à certains sujets que là, soudainement, leur visibilité tombait drastiquement. Et Geneviève est une de ces personnes qui a remarqué avec ses propres, la propre évolution de son message, comment certains sujets flattaient l'algorithme dans le mauvais sens du poil, on va le dire comme ça, et lui créaient ces espèces de moment d'invisibilité par rapport à sa propre audience. Et c'est de ça, dans le fond, qu'on parle beaucoup dans cet épisode-là, de comment il y a cette espèce de manipulation au niveau du message de l'argent, du message des femmes et de l'argent sur les plateformes publiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme femmes, pour détourner ces pratiques-là qui pourraient nous mettre dans des positions d'invisibilité. Donc, qui est Geneviève Paré? C'est une maman, une amoureuse, une philosophe et une entrepreneuse quantique. Elle aime se poser des questions, décréer, déconstruire les anciens paradigmes, s'amuser avec les parties d'ombre et surtout jouer avec « fais pas ça parce que ». Je pense que ça résume bien un peu l'angle de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, Je suis en train de continuer de lire sa petite bio ici, là. Si tu lui dis que c'est risqué, il y a de grandes chances qu'elle l'ait déjà essayé. Toutes ces explorations partent du principe que tout le monde a tort et tout le monde a raison. Donc, grâce à ses déboires financiers des dernières années, elle a appris à s'abandonner au chaos de la manifestation quantique et elle s'amuse dans ce terrain de jeu fertile et abondant. Elle est une précurseur et elle aborde les défis de la vie sous un angle différent en se posant simplement des questions sans attendre de réponse. Et pour Geneviève, finalement, la souveraineté part d'un profond désir de suivre sa grande vision et de vivre sa vie selon ses valeurs les plus profondes. La vie est simple et douce quand on y pense. Notre grand défi, c'est qu'on croit que c'est l'argent le problème, mais en fait, c'est nous qui avons des croyances et qui sommes hypnotisés dans la matrice. Donc, je trouve que c'est une présentation assez ballsy, assez forte en mots très éloquents. Et sans plus attendre, ayant dit tout cela, je vous laisse avec Geneviève et j'ai très hâte d'avoir vos retours sur cette conversation parce que c'était vraiment, dans ce cas-ci, une conversation. C'était une conversation dans les deux sens. Ça a été beaucoup de prise de conscience, de réflexion. Et puis, naturellement, il y a personne ici qui aspire à la vérité, mais on aspire à des perspectives. Et sur ce, je vous laisse avec Geneviève Paré. Salut Geneviève! Bienvenue ou re-bienvenue sur l'ambition féminin. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment tu vas?
Super bien! Merci tellement de m'avoir invitée. Merci.
On avait déjà eu une belle conversation à propos de toute ton histoire avec l'entrepreneuriat, puis aussi comment tu t'es dédiée à la grande thématique de l'argent dans ta business. Puis, je voulais savoir où t'en étais depuis cette conversation. Tu sais, comment ça a été la business pour toi pendant et post-pandémie?
Oh mon Dieu Seigneur! Et quand on s'est parlé, c'était juste avant que tout commence. Cette dernière année qui a été dans une intensité financière pour moi, ça a été une très grande contraction financière. En fait, moi, en janvier 2020, j'ai décidé de lancer avec une amie, Mélissa Potier, une entreprise d'événementiel en personne. Tout, tout, tout! Alors, on a fait un site web, on a engendré des dépenses tellement grandes au niveau du marketing, des vidéos, tout ça. Et finalement, en mars, on a su qu'on devait tout annuler. Alors, on a eu une très grande perte d'à peu près 25 000 $ qu'on était incapable de récupérer, là, même au niveau financier, au niveau comptable. Là, je me suis assise avec mes comptables, puis on s'est dit comment on peut gérer tout ça. Donc, c'est ça, en janvier 2020, notre vie était totalement différente et on savait pas ce qui allait se passer. J'ai su aussi que j'étais enceinte en début février. Et là, premier trimestre difficile, ensuite on se retrouve avec les enfants, grosse perte financière de 25 000 $ mon chum se fait mettre à pied parce qu'il est en publicité.
Wow!
Et là, on se regarde et on se dit « What? Qu'est-ce qu'on va faire? » Nous, la sécurité d'emploi de mon chum, je mets bien des guillemets, venait d'être saccagée. C'était la manière où on se disait « Ben, tu sais, au moins tu vas avoir un RQAP. » C'était déjà prévu qu'il allait prendre le RQAP au complet. Et là, on se disait « Mais ça n'a pas de bon sens. Là, tu n'as même plus avoir accès au RQAP. Tu es sur la PCU. On sait pas où est-ce qu'on s'en va, tu sais, avec nos skis. Puis on avait même, on se demandait comment on allait payer la garderie privée, on se demandait comment on allait réussir à survivre, en fait, financièrement. Mm-hmm. Et est venu des grandes discussions, en fait, avec mon chum, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, il a été réengagé au niveau de chez LG2, parce que finalement, ben ils se sont rendus compte que, oh mon Dieu, la pub continuait. Mais ça faisait que, vu qu'il a été mis à la porte, on n'était plus solvable au niveau de la banque. Pour au moins 2 ans. Si on vendait la maison, on savait qu'on ne pouvait plus avoir d'hypothèque. Donc ça, c'était vraiment épouvantable, parce qu'on voulait vendre la maison à ce moment-là, mais ça nous freinait parce qu'on savait qu'on ne pouvait plus réacheter quelque chose. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que on a étiré l'élastique au maximum, moi étant enceinte, puis on s'est dit, on va vendre la maison. Et j'ai mis complètement ma business à rien, à zéro. J'ai juste arrêté et je me suis promis de pas utiliser non plus la PCU. Donc, je suis pas embarquée sur la PCU, je faisais un minimum d'à peu près comme 2 500 $ par mois, tu sais, juste pour être sûre que tout allait, que tout était un petit peu, je dirais, au minimum. Puis, on a été sur le respirateur artificiel jusqu'à temps qu'on vende la maison. Puis quand on a vendu la maison, ça a été comme une libération parce qu'on a payé tous nos créanciers, on s'est retrouvés dans le positif. Tu sais, en fait, on a fait un beau gain en capital. On a utilisé ce levier-là, puis on s'est dit, OK, on va piler sur notre orgueil et notre ego et on va devenir locataire. Quand t'es locataire avec 3 jeunes enfants, les gens, je te dirais que mon père m'a dit que j'étais complètement folle. Mais... pourquoi j'en parle? C'est parce que ça a été tellement une belle décision, parce que ça m'a permis d'avoir tout l'espace financier. On n'avait plus aucune anxiété financière. Et on s'est dit, on va louer une maison meublée en Estrie. Donc, on a tout vendu, hein, nos électroménagers, on a tout vendu les meubles. On a vraiment, on repartait de zéro. On a dématérialisé.
Wow.
Et ouais, c'est quelque chose. Pour de vrai, je le souhaite à tout le monde de faire ça parce que on se rend compte à quel point c'est parfois d'une lourdeur financière, tous ces paiements-là. Donc, même l'auto, j'ai vendu mon gros VUS, on s'est acheté une auto cash, un vieux Subaru Forester. Fait qu'on s'assurait de ne plus avoir aucun paiement. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce que j'ai dit à mon chum, on change de vie. J'ai dit, tant qu'à tout arrêter, en fait, notre ancien train de vie. Et là, on s'est dit, parfait, les deux, on va travailler à notre compte et on va avoir un rythme qui nous plaît, à nous. Et d'avoir cette espèce de coussin-là qu'on a grâce à la maison, tu sais, on a eu quand même, après avoir payé tous nos créanciers, on a eu comme un 50 000 $ je dirais, qui nous restait. Fait que ça, c'est comme notre coussin de vie, puis ça va être notre salaire annuel pour l'année. Puis on s'est dit que notre première année comme entrepreneur, tous nos revenus, on allait simplement les placer puis les réinvestir dans l'entreprise, tu sais. Donc, on est là-dedans en ce moment.
Est-ce que ton chum puis toi, vous êtes les cofondateurs, est-ce qu'il est sur ton entreprise aussi? Non? OK. Il y a son entreprise à lui.
Non, même pas. Il ne veut pas avoir d'entreprise. Et ça, on va démystifier ça vraiment. Lui, c'est trop une grosse responsabilité pour lui. Il aime mieux être mon employé.
Okay.
Fait qu'en fait, je lui ai donné 1% de l'entreprise pour que je puisse le payer en dividende, qui est une stratégie fiscale, en fait. Fait que je lui paye en dividende par mois.
Super intéressant.
Oui, okay. Parce que lui, il ne voulait pas ça, puis il voulait pas cette pression-là, puis c'est un grand créatif. Puis tout le côté administratif, pour lui, c'est une très grande lourdeur. Donc, il voulait un contenant où... il n'y a pas à se soucier de sa performance. Donc, c'est ça. Puis je pense que quand on arrête de créer dans le manque, hein, parce qu'on crée dans le manque financier, ça, on va en parler, c'est sûr, en ce moment, la relation face à l'argent, souvent, on va être en création parce qu'on a peur de manquer d'argent ou qu'on veut payer une facture. Mais là, nous, on est sortis de ce paradigme-là, de ce dogme-là, et ça fait toute une différence. Parce que 2021, c'est incomparable à ce que j'ai vécu avant.
Oui, parce que là, tu es dans un mindset où tout ce que tu génères est dans un processus créatif, comme tu dis. Tu n'es pas en Exactement. Train de re-remplir des trous qui se sont vidés ou d'essayer de boucher un seau qui a des trous dedans puis qui coule. Là.
Exactement. Tu sais, souvent, on a l'impression qu'on est un panier percé au niveau de l'argent. Mais là, on dirait que... c'est un beau contenant en vitre, tout beau, puis que je fais juste ajouter de l'eau cristalline, tu sais, dedans, puis ça fait juste remplir. C'est la première fois de ma vie. Avant, j'avais une vieille passoire, là, du dollar. Puis l'eau coulait à flot, là, ça restait pas. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est de s'asseoir et se poser des questions. Je pense que 2020 nous permet ça. C'est des gros wake-up calls, peut-être, au niveau financier. C'est que ce qu'on a étiré au maximum, tu sais, l'élastique est rendu au maximum, bien là, c'est le temps de prendre des décisions, puis on a toujours le choix. Hein. Parce que j'aurais pu prendre le choix de faire faillite aussi, hein. Étirer l'élastique encore plus, puis me faire prendre ma maison, puis tu sais, rentrer dans tout ça. Nous, on a décidé, non, on vend tout, puis on va changer ce paradigme-là, si on peut dire. Ouais.
C'est super intéressant. Puis je savais pas tout ce background-là, donc merci de nous l'avoir raconté, parce que je pense que c'était effectivement, tu sais, même pour nous, qu'on savait pas ce qui allait se passer, on se demandait si on allait vendre notre condo locatif, on savait pas si on allait acheter, si on allait trouver, qu'est-ce qui allait se passer avec le marché immobilier. Mais je pense que du moins, vous avez vraiment... Le fait que tu avais ces possibilités-là aussi, que tu avais accumulé des genres de leviers financiers, comme tu dis, t'as aussi permis d'avoir des options quand venait le temps de pivoter. Je pense que ça, c'est intéressant à garder en tête quand on réfléchit aussi à comment on veut bâtir notre entreprise.
Oui, parce qu'on a toujours des choix, on a toujours des décisions, puis il n'y a jamais une décision qui est meilleure qu'une autre. On va toujours avoir des apprentissages. Moi, j'appelle ça, c'est des expérimentations. On expérimente un moment de frustration, de négativité, de perte financière ou de très grands gains financiers. Mais c'est toujours des expériences et on a besoin de ces expériences-là pour grandir, tu sais, tout simplement comme humain. Sinon, ce serait plate. Tu sais, le risque zéro n'existe pas. Vraiment. En fait, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est que souvent, quand on fait les sauts les plus risqués, c'est les plus belles pépites d'or qui se trouvent derrière. Mm-hmm. Et mon Dieu qu'on a peur, tu sais.
Ah, ça doit. Puis, non, puis c'est intéressant parce qu'en plus, c'est super méta vu que tu parles d'argent à travers tes produits aussi, tu sais, à ton audience puis tout ça. Puis ça a été tout un, j'imagine, est-ce que ça a été un changement de message ou ça a été vraiment juste comme une, tu sais, ça a juste souligné un peu ce que tu partageais depuis tout ce temps-là à ton public?
Je partageais, c'est drôle, avant je partageais vraiment l'argent en conscience puis un peu la frugalité. Tu sais, c'était plus de mettre son rythme de vie à... d'ajuster ses revenus par rapport à son rythme de vie. Puis là, en fait, j'ai juste ajusté mon message, c'est-à-dire qu'on trouve toute notre manière de fonctionner. Et je pense que c'est ça, c'est que j'ai arrêté de mettre tout le monde dans des boîtes. Mm-hmm. Je me suis dit que en 2021, tout le monde est rendu un hybride. Autant au niveau des revenus que notre manière de fonctionner, que notre manière de se loger, de créer du revenu, de générer de l'argent, de dépenser de l'argent, aussi au niveau familial. Hein. Mm-hmm. Notre situation familiale a vraiment changé dans la dernière année parce qu'on a maintenant des nouvelles contraintes qui font qu'on a un cocon familial, si on peut l'appeler, hybride aussi. Tu sais, tout a tellement changé dans les derniers 15 mois, si on peut dire, que... je pense que c'est ça, j'ai vraiment adouci encore plus mon message et j'ai encore plus d'amour et de douceur pour les gens qui passent par ces contractions-là, mm-hmm. ces immenses contractions financières-là, qui peuvent être vraiment, qui sont souvent le début d'une grande histoire d'amour, là, mais qui sont très difficiles, je trouve.
Mm-hmm. Ce qui nous mène aussi au cœur de la discussion qu'on voulait avoir aujourd'hui par rapport au message, puis au fait que le message que tu essaies de véhiculer, étonnamment, malgré toute sa douceur et toute, tu sais, je veux dire, sa conscience, semble pas plaire à un de nos amis...
à Marc! Marc!
À Mark Zuckerberg! et Facebook, Instagram, qui semble, selon ce que tu m'as expliqué, shadowban. Puis on va juste... expliquer un petit peu c'est quoi du shadow banning, mais c'est vraiment l'idée de bloquer ou censurer certains types de contenus en ne les mettant pas, en leur donnant pas autant de visibilité que d'autres types de contenus. C'est extrêmement dur à prouver qu'on est shadow ban parce que, tu sais, c'est un peu comme on se fait genre gaslighter par tout le monde, tu sais, par Mark Zuckerberg justement en disant ben non, qu'est-ce qu'il y a, genre, tu sais, comme il était bien diffusé ton contenu, mais là soudainement t'as, tu sais, 50% de moins de gens qui ont vu une certaine publication ou ça a pas été mis de l'avant du tout, puis là tu vois qu'il y a très peu d'engagement, puis ça c'est par rapport à l'algorithme aussi, c'est pénalisant parce que si tes gens n'engagent pas avec ton contenu puis t'es souvent shadowban, ben là, tu sais, ça crée un effet boule de neige et donc ton contenu est moins vu, ton contenu est moins populaire. Et c'est une façon de taire un peu certaines, certains messages ou certains créateurs à travers cette stratégie-là. Donc, parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau de ta visibilité depuis que tu as peut-être changé un peu ton message?
Ouais. Il faut comprendre que moi, présentement, je veux juste mettre au clair avec tes auditeurs. Je parle de la crise financière qu'on est en train de vivre et parfois ça peut être vraiment vu comme si je niais l'existence de tout ce qu'on vit présentement. Puis moi, je tiens à dire et redire, je sais que le virus existe, je ne nie pas ceci. Juste, on va commencer à la base, là. Je ne crois pas non plus que la Terre est plate. On part de là, ok? Tout va bien. Maintenant, vu que c'est clair... ce que je vois vraiment en ce moment, ça fait... En fait, le 13 mars, moi et mon chum, on s'est regardé l'année passée. Il y a un an exactement. Ben, 13 mois. On s'est assis puis on s'est dit, à qui la crise va profiter? Parce qu'il faut toujours se dire que ces moments-là qu'on vit présentement, il y a quelque chose de plus gros que nous. À qui profite tout ça, hein? On s'entend, l'argent mène le monde et ce n'est pas un mythe ni une belle citation, mais c'est vrai. Il y a des requins, je les appelle les quatre psychopathes, et ces gens-là sont très heureux qu'on soit distrait par le fait qu'il y a une grande crise sanitaire et qu'on mette toute notre attention sur le virus plutôt que tout ce qui se passe derrière. Et présentement, ce que j'ai trouvé très, très intéressant au début, c'est voir les grands mouvements au niveau des actions. C'est-à-dire ceux qui détiennent les actions des grandes pharmaceutiques, dont Marc, notre bel ami. En fait, si vous voulez vous amuser, regardez Marc et Marc, je l'appelle Marc pour ne pas me faire censurer. Oui, Marc, mais en fait, la compagnie de Marc détient beaucoup, beaucoup d'actions dans beaucoup d'endroits. Dont Disney, les Big Pharma, et les espèces de grandes transactions qui se passent avant un confinement, c'est toujours intéressant à les voir. Et je pense que c'est à ce moment-là, en début mars l'année passée, on a vu des gros mouvements transactionnels d'achat et de vente d'actions. Pour des grandes compagnies comme Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, toutes les grandes de Big Pharma. Puis par la suite, on a été confinés. Là, moi, je me suis dit, c'est intéressant. Et il faut comprendre que ces compagnies-là ont un besoin financier, c'est-à-dire de toujours prouver à leurs actionnaires qu'ils font du profit. C'est un peu comme toutes les grandes multinationales. Et présentement, on est dans une guerre économique par rapport à ça, puis on le voit aussi au niveau du PIB canadien. Le PIB en Amérique a descendu de 6%, ce qui est vraiment immense. On a moins 6%. Et la Chine a augmenté de 2%, elle est à plus 2%. C'est-à-dire qu'on a un écart de 8% avec la Chine. Et là, il faut se poser la question, à qui cette crise est-ce qu'elle est en train de profiter? Et je pense que ça, Marc ne veut pas qu'on en parle sur Instagram et Facebook, parce qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, normalement j'ai entre 800 et 900 personnes qui regardent mes stories par jour, et je peux aller en bas de 100 pendant une semaine.
Wow!
Quand je parle de certains mots très importants, et... L'autre mot qui est très, très shadowban présentement, c'est la condition de la femme. Dès que je parle que la crise affecte particulièrement les femmes et qu'on a un recul au niveau de la condition féminine, parce que c'est encore l'homme, entre guillemets, dans les foyers normaux, les cocons familiaux, qui a le plus gros salaire, donc nécessairement, ça va être la femme qui va prendre congé sans solde. Quand les enfants vont être en quarantaine, quand les enfants vont être malades, quand les enfants doivent passer un test COVID, si les enfants sont exclus de l'école, c'est toujours la femme. Toujours, à 99% du temps. Donc, c'est encore une fois la femme qui perd son pouvoir. Parce que le pouvoir, en ce moment, nécessairement, on est dans une société où c'est l'argent qui est le pouvoir. Si t'as pas d'argent en ce moment, tu peux rien faire. Tu peux pas te nourrir, tu peux pas payer ton électricité, tu peux rien faire. L'argent est notre moyen. C'est le moyen utilisé présentement. Et en ce moment, on enlève ce pouvoir-là aux femmes d'une manière assez horrible, je dirais. Mm-hmm. Et subtil, parce qu'on s'en rend pas trop compte. Mais dans 5 ans, on va se dire, oh mon Dieu, à quel point on a reculé en 2020. Et dès que j'utilise ces termes-là, qui s'appellent une crise financière, où je parle, ou simplement quand j'aborde le fait que la condition de la femme est vraiment affectée, je perds complètement mon audience. Pour une semaine, c'est long.
Wow! Ouais, puis sachant que, tu sais, je veux dire, pour tous les entrepreneurs du web ou n'importe qui a une certaine sphère d'influence comme, tu sais, t'as créé dans les dernières années autour de ton expertise, tu sais, perdre des vues ou perdre des followers, sachant que t'es même pas en train, c'est même pas au niveau de la publicité, là, tu sais, on parle pas non plus de ciblage publicitaire ou des choses comme ça, c'est quand même très détrimentiel aussi pour la business, j'imagine. Est-ce que t'as eu des répercussions, mettons, sur tes ventes ou est-ce que t'avais quand même une infolettre dans laquelle tu continues à avoir accès à ton public comme ça ou...
Ben moi, c'est vraiment par mon podcast, ça c'est bien, là, il est aucunement censuré, donc oui, j'ai toujours accès à mes gens via mon podcast. Il a fallu vraiment que je me réinvente aussi au niveau de mon message. Donc, je le dis ouvertement, je me censure maintenant sur Instagram. Mm-hmm. Je ne dis plus ça. Parce que, puis aussi, Instagram a banni mon compte et a un drapeau rouge dessus.
C'est vrai?
Donc, je n'ai pas le droit de faire des Reels. Ouais, parce que mon compte Geneviève Paris, Jen Paris, j'ai pas le droit de faire des Reels parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore assez développée pour pouvoir me censurer. Donc, j'aurais trop un grand reach.
Wow!
Ouais, c'est épouvantable, hein? Parce que tout part de l'intelligence artificielle, puis, tu sais, je la connais, l'intelligence artificielle, c'était ça ma job avant. C'est ça qui est drôle, parce que je la connais, la bibitte, et j'apprends à l'amadouer. Puis je pense qu'il faut pas non plus se fâcher contre les réseaux sociaux, mais bien être conscient et apprendre à jouer avec eux. C'est-à-dire, maintenant, je joue vraiment avec leurs règles et je m'assure que je reste toujours alerte. C'est-à-dire, je fais toujours comme une espèce de petite introspection là à la fin de la semaine en disant, « OK, telle journée, j'ai eu tel message. Voici... » sur mes stats, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis extrêmement alerte de tout ça. Puis, je m'assure, en fait, que mon message passe, malgré le fait que je me censure, et je joue avec les mots. Donc, l'intelligence artificielle, ce qui est bien, c'est que c'est pas intelligent. Il faut comprendre ça. Une intelligence artificielle n'a pas notre humour, comprend pas l'humour, comprend pas le deuxième degré, comprend pas les métaphores. Donc, c'est vraiment d'aller s'amuser là-dedans parce que l'intelligence artificielle, c'est binaire, hein? C'est blanc ou noir. C'est un ou deux. Donc, tel mot avec tel mot. Donc, un algorithme, c'est ça, c'est qu'il va associer des mots que tu dis, des mots que tu écris et va faire une association et là, tu vas diminuer au niveau des algorithmes. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a jamais... Le débat, il est très noir ou blanc, hein?
Mm-hmm.
Aussi, dans qu'est-ce que nous, on regarde, qu'est-ce qu'on consomme. Souvent, c'est des gens qui vont tous penser comme nous. Puis, René, moi, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Et je me suis mis à suivre et à liker des gens qui n'ont pas le même discours que moi pour au moins avoir un autre discours sur mon Instagram. Mm-hmm.
Pour pas rentrer dans la chambre à écho que ça va créer automatiquement. Est-ce que tu penses que, comment dire, ton discours, c'est parce qu'ils considèrent que c'est genre conspirationniste là, ou quelque chose comme ça? Tu sais, que ça inciterait les gens à, je sais pas moi...
C'est contre le narratif. En fait, ce que je me rends compte, il y a deux choses. Pourquoi on se fait shadowban? C'est pour deux trucs. Soit parce que tu as un discours qui va contre le narratif, c'est-à-dire le gouvernement. J'ai une de mes clientes que j'adore, Mesa, qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Puis on a fait un test sur son sur son Instagram. Elle a 25 000 personnes qui regardent ses stories à chaque jour. Puis là, je lui ai demandé, fais un... On s'est amusé parce qu'on parlait de Shadowban, puis je lui ai dit, fais une question comme, êtes-vous pour ou contre les mesures en place du confinement? Oui, non, OK? Et elle a été Shadowban pendant une semaine et elle avait moins de 1000 personnes qui voyaient
juste pour avoir posé la question.
Pour avoir posé. Donc, elle avait pas un discours conspirationniste, elle a juste posé une question.
OK.
Avec les mots qu'on savait que c'est les mots qu'il ne faut pas dire.
OK, OK.
Tu sais, on est rendu quasiment dans Harry Potter, là, tu sais, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, là. On est à veille de dire ça, tu sais. Donc, on s'est rendu compte que c'est quand on remet en cause le narratif, c'est-à-dire les règles. Donc, peu importe la manière dont tu vas poser ta question, dès que tu remets en doute ce qui est imposé, pourtant, je pensais qu'on était dans une société libérale, capitaliste et démocratique, mais ça a l'air que non.
Ouais, puis, tu sais, ces gens-là, ce pride, tu sais, ils ont cette espèce de volonté de faire croire qu'il y a de la liberté d'expression et il y a toute cette... tu sais, quand les suprémacistes ne sont pas censurés, on brandit le drapeau de la liberté d'expression et là, tu vois ben, qu'il y a tout un sous-discours que lui, d'un autre côté, est gentiment censuré sans que ça fasse de vagues, là.
Ah oui, puis ce qu'il faut juste être conscient, en fait, de l'intelligence artificielle, c'est que Marc va choisir ce qu'il veut ou non qu'on voit. Donc, il faut toujours se poser la question, pourquoi est-ce que les discours des suprémacistes blancs, les maudits, sont acceptés? En fait, pourquoi est-ce qu'on peut encore googler pour avoir de la pornographie juvénile, mais on ne peut pas avoir un certain discours? Fait que ça, c'est vraiment des questions à se poser et philosopher par rapport à... c'est toute une grande prise de conscience à avoir en se disant, mais c'est sûrement que ces points-là vont ramener de l'argent. Tout est basé sur l'argent. Pourtant, l'argent n'est pas mauvais en soi, là. C'est juste qu'il y a des grandes personnes, des grands humains, qui ont décidé que leurs actions, en termes de le stock là, à la bourse, étaient plus importantes que la liberté d'expression. Parce que les grands discours qui sont très polarisants, quand il y a une polarité, qu'est-ce que c'est? C'est du clickbait.
C'est ça.
On l'a vu, hein? Tu sais, le Journal de Montréal a eu la plus belle une, là, qui a montré tout ce besoin-là d'avoir des discours. Ils veulent avoir des débats où les gens vont être extrêmement blanc-noir. De la division, extrêmement dans le racisme, extrêmement dans « j'ai raison, tu as tort ». Quand, en fait, c'est juste la vie, ce n'est qu'une nuance de gris, là.
Ouais, non, définitivement. Puis je le vois beaucoup aussi, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les travailleuses du sexe. Surtout celles qui sont très empowered, parce que je trouve que, on va pas se le cacher, tu sais, le travail du sexe est un des formes entrepreneuriales les plus anciennes dont les femmes ont eu accès. Et il y a quelque chose de très... de très puissant dans cette façon aussi de voir comment on peut se jouer à travers les dynamiques de pouvoir qui sont établies, mais tout de même rester très, très lucide, conscient et aussi en charge, tu sais. Puis s'il y a une catégorie de personnes qui est extrêmement ensilencée, c'est bien ces travailleuses du sexe-là qui essayent aussi de, des fois, puis là on parle aussi de toutes celles qui vont avoir un discours autour du corps et des choses comme ça, de changer des narratifs de pouvoir qui sont très, 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 très intimement liés avec les narratifs de l'argent. Donc, ma question pour toi, ça serait peut-être, est-ce qu'il y a, selon toi, une nouvelle façon ou une bonne façon ou des façons plus subversives ou du moins plus... Comment on parle d'argent maintenant? Comment est-ce qu'on peut parler d'argent, nous, femmes, qui essayons, genre, de outrepasser ces narratives?
Ah, oh, c'est tellement une belle question. En fait, là, moi, je ressens au plus profond de mon être que finalement, enfin... on est en train de vivre une guerre qui est... On était dans une ère patriarcale et j'ai l'impression qu'on va revenir à une ère qui est vraiment matriarcale. On tend vers là. Les points de rupture qu'on va vivre cette année, parce que cette année, elle va pas être plus agréable. Quand tu vois l'inflation présentement, quand tu vois le marché immobilier, quand tu vois l'inflation dans tout ce qui se passe dans nos vies, quand tu vois à quel point la femme, elle est encore plus confinée, elle est encore plus, il y a encore plus de répercussions sur la femme. On se dit que ces points de rupture-là vont amener qu'à un moment donné, on va se dire, je mets mes limites, c'est fini. Je ne dépends plus de d'un système patriarcal pour générer de l'argent. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand la femme va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de l'homme pour faire de l'argent, et ça, je le dis en tout amour, quand on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de notre amoureux pour être capable de subvenir à nos besoins et ceux de notre amoureux, et qu'on peut changer notre manière de penser face à l'argent, c'est-à-dire qu'on est capable, seul, en équipe c'est encore mieux, hein? Moi j'adore mon amoureux, mais que seul je suis capable de subvenir à tous les besoins de mon cocon familial, c'est là qu'on va changer les paradigmes. Je pense qu'il va falloir vraiment dire « wow, minute, stop ». On s'entend qu'en ce moment, c'est tous les métiers des femmes qui sont les plus touchés et les moins bien rémunérés par la COVID. Les infirmières, les préposés, c'est toutes les professeurs aussi, toutes les éducatrices, toutes nos enseignantes. En ce moment, c'est en train d'exploser de partout. Le système n'est plus capable de soutenir ce patriarcat-là. C'est pas normal que nos politiciens fassent encore autant d'argent qu'il y a un boys club. Partout où il y a des boys clubs, la masse salariale, elle est hyper élevée. Et partout où c'est les femmes, la masse salariale, elle est vraiment basse. C'est des salaires de crève-faim. Pour moi, c'est de l'esclavagisme moderne et je ne pèse pas mes mots. Les femmes travaillent pour juste travailler pour payer le minimum et elles n'y arrivent pas au bout du mois. C'est à un moment donné, c'est ça le nouveau paradigme, c'est que ce point de rupture-là va faire qu'on va juste dire c'est fini, on arrête, on repart. À nouveau, on veut pas que ça revienne comme avant. On veut s'émanciper, puis on se rend compte que là, on est en train de laisser toutes nos plumes. Et je pense que d'écouter des podcasts, parce que les podcasts, c'est encore l'endroit où il n'y a rien qui est censuré, ainsi que d'aller directement sur les sites web des créatrices ou d'être abonné à leur infolettre. Ça, c'est vraiment les trois manières de que tu as 100%. Il y a Patreon aussi qui est magnifique. Odyssée aussi, où il n'y a pas de censure. Donc, c'est vraiment que vos créatrices, allez les suivre ailleurs que sur les réseaux sociaux parce que leurs réseaux sociaux sont souvent censurés. Et vous voulez connaître toutes les multifacettes, les multicouches de ces femmes-là qui sont des expanders. Ce sont des gens qui vont vous permettre de voir que d'autres possibilités existent. Et pour de vrai, c'est le temps d'être vraiment dans un sisterhood et d'accepter les femmes qui ne pensent pas comme nous, mais de toutes les soutenir et d'arrêter de se bâcher. C'est normal, en ce moment, on est en requestionnement total. C'est normal qu'il y ait une polarité puis que je ne sois pas d'accord avec tout ce que quelqu'un dit. Mais il faut se soutenir malgré ça. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais il faut s'élever en tant que femme, malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord sur tous les aspects que chacune des femmes vont dire. Parce que c'est correct, puis c'est ça qui est beau. Soyons tous, toutes uniques, tu sais.
Puis je pense que aussi, c'est important de savoir que on vote avec notre argent, puis on supporte avec notre argent aussi, puis on voit ça de plus en plus aussi chez les créatrices, autant les créatrices racisées, mais aussi, justement, tu sais, des travailleuses du sexe qui disent, tu sais, c'est pas assez de juste regarder puis liker mes posts, tu sais, si tu veux que je continue à créer, j'ai besoin de soutenir ma vie, j'ai besoin de soutenir tout ce que je suis en train de faire, l'éducation que je suis en train de faire, tout le travail qui est non rémunéré, qui est du travail aussi de prise de conscience, du travail, tu sais, de la charge mentale aussi. Des fois, tu sais, je pense à toutes ces créatrices, mettons, noire ou américaine, pas américaine, mais indigène, puis du travail qu'elles font de nous éduquer par rapport au racisme systémique, puis des choses comme ça, mais tu sais, il faut aussi, tu sais, c'est en leur permettant de survivre qu'on est capable aussi de bénéficier de tout ce qu'elles ont à nous apporter, fait que je pense que c'est important aussi de penser aux façons dont on peut soutenir nos entrepreneurs créatrices et les personnes qui nous inspirent aussi à continuer ce qu'elles sont en train de faire.
Et surtout, il faut enlever aussi cette mauvaise tactique marketing, et je sais que toi, tu haïs ça aussi, le maudit contenu gratuit. Ouais. Arrêtez de croire qu'il faut donner pour recevoir un petit peu.
Ouais.
À un moment donné, vous donnez assez à vos enfants, vous donnez assez à votre mari, vous donnez assez à tout le monde. Maintenant, c'est le temps de recevoir. Vous avez le droit de recevoir beaucoup d'argent. Et ça, c'est tellement transgénérationnel. Hein. Ça fait tellement peu de temps que la femme est rémunérée. Mm-hmm. Tu sais, souvent, ça fait même pas 100 ans dans votre génération. Tu sais, votre arrière-grand-mère, ça se peut qu'elle a jamais eu de salaire. Puis votre grand-mère, on sait même pas si elle travaillait. Donc, ça fait pas beaucoup de générations qu'on est rémunéré pour notre travail. Et là, c'est le temps de s'assurer que on est enfin rémunéré et surtout qu'on rémunère les bonnes personnes. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça super important. Arrêtez de donner votre argent au système patriarcal et raciste. On va le dire de même. C'est le temps d'investir votre argent dans des gens et dans une espèce d'économie plus locale et circulaire. Moi, je pense que ma plus grosse prise de conscience de 2020 a été j'ai été dégoûtée. Je pense que j'ai eu mal au cœur et j'ai eu mal au ventre pendant 2 semaines quand je me suis rendu compte de ça. Je plaçais des REER puis des CDI comme tout le monde me disait de faire.
Mm-hmm.
Et quand je suis allée voir les actions que je détenais et c'était quelle compagnie, j'ai vraiment pleuré et j'ai retiré toutes mes actions de ces fonds-là et j'ai décidé à la place d'investir dans du crowdfunding, là, dans des petites entreprises à la place avec cet argent-là. Et j'ai décidé de plus avoir de fonds de retraite parce que je ne peux pas participer à ce système-là qui, tu sais, souvent on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens en Afrique? Puis ça, c'est des discussions que j'ai avec ma grande amie Rose Gouette. Je sais pas si tu la connais, de l'Oxy. Elle vient du Gabon. Okay. Et elle a été élevée en France dans les cités. Donc elle était très elle a vécu hein, là-dedans. Puis maintenant elle est au Québec, elle a une super belle entreprise de produits cosmétiques. Puis elle a un super beau discours. Hein. Si vous voulez aller écouter ce qu'elle dit, elle a des super beaux podcasts où elle parle vraiment du racisme et de comment elle s'est sortie de ce cercle vicieux-là.
Cool, et, je mettrai le lien,
oui. Oui, c'est tellement beau, je vais te donner des liens. Oui. Puis, en fait, c'est elle qui m'a sensibilisée à ça. Ma mère m'en avait parlé avant parce que c'était une précurseur. Mais, tu sais, souvent, l'argent qu'on va mettre dans les grosses compagnies multinationales vont être les compagnies qui vont déforester l'Afrique et l'Amérique latine. Et à cause de ça, les gens, le peuple, doit changer de ville. Ils se retrouvent tous dans les villes, mais dans les ghettos. Et là, c'est tellement insoutenable la vie dans les ghettos qu'ils décident de devenir des migrants. Mais à la base, c'est qui le problème? C'est nous. C'est nous qui donnons notre argent à ces multinationales-là qui vont faire du déplacement, en fait, qui vont raser des forêts, qui vont aller... Tu sais, présentement, on parle beaucoup de l'énergie électrique, hein? Est-ce que vous savez les répercussions de toutes les batteries des voitures? C'est horrible. Les enfants travaillent dans les mines en Afrique. Ils sont des esclaves parce que nous, on croit que c'est super bon, les trucs électriques et tout ce qu'on a besoin comme lithium et tout ça, tous les minéraux. C'est à un moment donné, il faut se poser notre question. Tu sais, notre MacBook, peut-être qu'on pourrait le réutiliser, le réusiner, puis arrêter de s'en acheter un nouveau à chaque semaine. Puis notre cellulaire aussi. T'sais, on devrait pouvoir le garder jusqu'à temps qu'il brise pour de vrai, là. Pas parce que le nouveau iPhone est sorti. Fait qu'il y a quelque chose où c'est très important d'être conscient que quand tu achètes une auto électrique ou tu achètes quelque chose qui a une grosse batterie dedans, mais c'est un peu comme le coton aussi, là. Ces temps-ci, on en parle beaucoup. C'est dans les camps de concentration qui sont de Chine que notre coton est produit. Mais c'est de l'esclavagisme, là. Puis c'est vraiment de se poser cette question-là.
Oui, c'est de penser à l'argent juste comme le profit final et non comme l'impact qui est créé dans toute la chaîne de production, dans toute la chaîne de consommation. Puis comment est-ce que nous, on est privilégié, justement, de seulement voir le chiffre dans notre compte en banque.
Oui, puis tu sais, moi, je me suis posé la question parce que je voyais mes enfants, puis je me suis dit, hey, il y a des enfants de l'âge de Gaspard, tu sais, il y a 4 ans, qui travaillent dans ces mines-là. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je participe à ça? Ça a été ma très grande question. Puis ensuite, ça a été, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'à un moment donné, il faut bien s'acheter un ordinateur, hein, au travail. Ouais. Fait que ça a été vraiment, je me suis dit, bien, tu sais, je vais me promettre de garder mes électroniques le plus longtemps possible, puis je vais acheter toujours de seconde main. Ouais. Je vais arrêter d'acheter neuf. Mm-hmm. Fait que ça a été vraiment, tu sais, moi, mon cellulaire, c'est un vieux iPhone 8, là.
Non, mais c'est la même chose, moi aussi.
C'est vraiment ça.
Je préfère acheter réusiné, tu sais.
Oui, exactement.
Je préfère acheter quelque chose qui a déjà été produit et non reproduit. Ou j'aime aussi beaucoup les entreprises qui décident de seulement... ils produisent seulement à la commande, tu sais, ils n'ont pas de stock.
Parce qu'on s'entend en ce moment aussi, on a ce problème-là comme humain. On veut tout de suite maintenant, vite, comme un enfant de 2 ans.
Ouais.
Hein, on n'est pas capable d'attendre. Hein? Puis ça, c'est très le phénomène de la carte de crédit. Hein? Devinez pourquoi on s'endette autant, c'est parce qu'on veut tout maintenant. On n'est pas capable d'attendre d'avoir l'argent pour se le payer, de un. Et de deux, c'est qu'on va vraiment surconsommer et on est vraiment dans des dépenses inconscientes. Et on prend pas le temps de se poser la question, tu sais, est-ce que c'est ça que je veux pour la planète? C'est vraiment des grandes prises de conscience et souvent juste nos actions, nos petites actions au quotidien de où on va dépenser notre argent, c'est raciste. Tu sais, on est raciste dans notre manière de dépenser notre argent puis on s'en rend même pas compte. Mm-hmm. En fait, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que moi, ma vie, elle est plus importante que celle du petit enfant qui est dans une mine? J'ai pas plus d'importance que cet enfant-là qui est dans un système où il croit que la réalité, c'est d'être l'esclave et de gagner 2 $ par mois, tu sais, pour nourrir ta famille.
Puis là, je suis curieuse pour qu'on clôt, parce que c'est quand même une discussion qui pourrait... On est parti du shadow ban, on est pas arrivé dans les enfants, genre.
Un intro vraiment douce.
Non, merci de toutes ces prises de conscience-là. Puis c'est drôle, hein, parce que ces temps-ci, dans les épisodes que les invités que j'ai sur le podcast, on parle beaucoup justement des encombrements, on parle aussi de politisation des femmes, on parle genre de cet impact-là aussi qu'on a à travers notre influence. Tu sais, j'ai enregistré un épisode où on parle de SEO, ben on parle de ça aussi, veux pas, là, tu sais, de l'impact qu'on a à travers ça. Parce que tout est connecté, mais je me demandais justement, tu sais, peut-être pour clore un peu notre conversation, est-ce que ta façon de faire de l'argent, tu sais, comme par exemple, toi, là, t'avais une académie, tu donnais des cours pour mieux gérer, mettons, profits, dépenses, etc., tu sais, est-ce que, mettons, la façon dont tu vas gérer ton argent à partir de maintenant, ou que tu la gères, ou que tu montres aux gens de la gérer, les femmes de se trouver plus en puissance à travers la façon dont elles gèrent leur argent, est-ce que ça a changé tes principes? Est-ce que tu as comme affiné ça vers quelque chose qui est beaucoup plus justement impactful?
Ah oui, tellement. Ce que je dis aux gens, c'est j'aime pas les coups de tête. Ce qui est important, c'est de se rendre compte de ce qui n'est pas aligné avec nos valeurs et de faire les transitions tout en douceur.
Mm-hmm.
Okay? Dans la vie, on n'est vraiment pas obligé de se dire « Oh mon Dieu, tu sais, je vais jeter mon ordinateur. » Non, tu l'as ton ordinateur, tu as participé à ça, maintenant tu es conscient. Fait que tout mon coaching, je te dirais, c'est vraiment dans la conscience face à l'argent et d'aller vraiment décider pour chacune des personnes, parce que chaque humain est vraiment différent. C'est quoi tes valeurs qui sont les plus importantes? Moi, je t'informe. J'essaie... En fait, moi, ma job, c'est d'aller tout lire, tout éplucher. J'ai un côté extrêmement geek. Fait que je m'amuse à voir qu'est-ce qui se passe présentement, tu sais, dans le monde. C'est quoi les grands mouvements? Qu'est-ce qui impacte? Et je vais informer les gens. Puis par la suite, c'est vraiment de se dire, c'est quoi les petites actions qu'on peut faire au quotidien qui vont changer, qui vont avoir un impact? Tu sais, parce que je suis pas parfaite, hein. J'achète des fois du McDo à mes enfants, puis je sais très bien que c'est pas bon pour eux, là. Tu sais, c'est ça aussi, c'est de jamais se culpabiliser. Je pense que la première chose, c'est d'arrêter la culpabilité. Et ensuite, c'est d'arrêter d'avoir peur. Parce que la peur fait qu'on... On a tellement peur de manquer d'argent qu'on décide de faire des choix financiers cheap. Hein? Mm. Et à un moment donné, il faut sortir de ça et se dire, à la place d'acheter, de chercher le plus bas prix, je vais chercher la plus belle qualité et la plus belle équité pour les gens. Donc, c'est vraiment d'acheter en le plus de possible en pleine conscience. Mm-hmm. Puis, il y a des choses, moi, que je ne peux pas acheter en pleine conscience, puis je le sais. Admettons, mes enfants, ils aiment les petits souliers Nike, OK? Mm-hmm. Mais ce que je fais, c'est que je leur achète une paire et j'attends qu'ils aient passé au travers, que les orteils sont en train de sortir pour en racheter une deuxième, OK? Par contre, les bottes d'eau, il y a des super bottes d'eau qui sont faites au Québec, c'est Camic. Mm-hmm. Mais je vais le payer le 25$ de plus par paire de bottes d'eau pour de la qualité faite au Québec, parce que ça existe. Fait que c'est vraiment d'aller toujours faire un plus, un moins. Tu sais, admettons, je vais continuer à acheter des vêtements peut-être pour les enfants. 50% va être acheté dans les magasins de grande surface. Puis l'autre 50% des vêtements vont être faits par des créateurs d'ici. Mm-hmm. Fait que, puis de plus en plus, ça se retrouve sur le seconde main. Fait que c'est vraiment d'aller acheter des lots de seconde main, tu sais. Mm. Et je pense que c'est vraiment ça qui a changé dans mon discours. C'est d'arrêter de croire que c'est blanc ou noir. C'est ça.
On essaie de faire un mix le plus... Tu sais, je pense que c'est un peu comme toute la conversation autour du zéro déchet, tu sais. C'est comme, c'est pas parce que t'es pas 100% zéro déchet que t'es pas capable de faire des... tu sais, des actions qui arrive de plus en plus dans cette direction-là, puis qui veut pas ont un impact quelconque. Oui. L'important, c'est de continuer.
Devenir anxieux, exactement. Tu sais, des climato-anxieux, là, on les voit beaucoup. Oh mon Dieu, si je fais ça. Mais enlevez-vous toute culpabilité et faites juste prendre conscience doucement. Puis ça, c'est vraiment, je l'ai amené autant dans Harmonie, là, qui est mon programme annuel de transformation financière. Puis ça, c'est vraiment pour tout le monde. Mm-hmm. Puis on fait vraiment du shadow work, du trauma healing. Il y a du coaching financier, du coaching vraiment plus au niveau psychologique, parce que l'argent est vraiment lié souvent à un très grand trauma là, dans notre vie.
Vraiment, vraiment.
Puis des traumas, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui t'a donné un coup de pelle d'en face, là, physiquement. Là. Ça peut être des moments où, quand tu étais jeune, tu as vécu quelque chose, mais ça a l'air tellement futile comme adulte. Mais comme enfant, tu l'as vécu d'une manière tellement intense. Mais c'est un trauma, tu sais.
Ouais, c'est des empreintes de vie là, qui sont. Ouais.
Exactement. Puis aussi, il faut être doux. Ben, toi, t'es maman aussi, là, tu vas comprendre. Il faut arrêter de se culpabiliser face à nos enfants. Mm. Nos enfants, ils vont avoir des traumas aussi, malgré le fait qu'on va être les mamans les plus hautes de la terre et les papas les plus hautes de la terre. Notre but, c'est de les accompagner là-dedans puis leur donner le plus de ressources possible après, quand ils vont vouloir faire ce travail-là. Mm-hmm. Mais le travail de trauma, c'est pas à 9 ans que tu fais ça, là. Donc, c'est vraiment après ça, comme parents d'adultes, ça va être à nous d'accompagner nos enfants là-dedans aussi.
Ouais.
Puis d'accepter que leur perception, elle est peut-être différente de ce que nous, on a voulu leur donner. Fait que c'est ça qui est beau.
Ouais, à commencer par ouvrir les conversations, notamment sur l'argent, tu sais.
Oui!
Et sur, genre, tu sais, assez tôt, genre, de commencer à parler de ces concepts-là. Puis peut-être, là, genre, je sais qu'on a beaucoup dépassé le temps que d'habitude, genre, dans un épisode, mais j'ai vraiment une dernière question qui me brûle les lèvres, puis c'est, selon toi, tu sais, je veux juste qu'on parle un petit peu, parce que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais divulguer son chiffre d'affaires, dis-le-moi.
Oh, ouais.
Oui, okay. Non, comment? Oh.
Tout le monde devrait. Ça devrait être affiché partout. En fait, dans les autres cultures, tout le monde parle de leur salaire annuel. Hein? Il y a juste au Québec qu'on parle pas de notre salaire annuel. Puis je vais vous dire pourquoi c'est pas bon de pas parler de son salaire annuel. Moi, je l'ai vécu comme junior, OK? Quand je suis rentrée comme junior chez CGI, je faisais 40 000 par année. Et à chaque année, j'ai fait 40 000 pendant 3 ans, OK? Et à chaque année, on me disait que j'avais pas... J'avais un salaire de junior, puis c'était comme ça, puis c'est normal. Puis quand j'allais être intermédiaire, ça allait changer. Ce que j'ai su, c'est que mes amis, qui faisaient le même salaire que moi, le même travail que moi, vu qu'ils avaient mieux négocié sûrement quand ils sont rentrés, faisaient tous 50 000 comme salaire de junior. Mais tant que j'ai pas eu cette discussion-là en leur posant la question « C'est quoi ton salaire annuel? » j'avais pas de pouvoir face à l'employeur. Et tant qu'on ne parlera pas d'argent, cette hiérarchie-là va continuer à rester. Et à ce moment-là, je suis allée me plaindre et oh, c'est drôle, j'ai eu 60 000 d'un coup.
Mais c'est quand même... Là, tu l'ouvriras plus ta bouche.
Hey, tu sais, fait que c'est ça. Fait que en 3 ans, j'ai perdu beaucoup d'argent en ne sachant pas, vu que les gens ne parlent pas d'argent. Et mon père a toujours capoté parce que moi, j'ai toujours dit haut et fort mes salaires annuels, mes bonus, mon chum aussi, on parle ouvertement d'argent à la maison. Et plus on va en parler ouvertement, plus on va arrêter d'avoir la mentalité « je suis née pour un petit pain ». Mm-hmm. Et cette mentalité-là, il faut la casser. On a une mentalité, surtout au Québec, on est des colonisés, et mon Dieu que ça paraît au niveau de l'argent. Hein? Parce qu'on était... on a toujours été inférieur à quelqu'un. On a été inférieur dans le temps aux anglophones, parce que c'est eux qui étaient les businessmen. Après ça, les femmes ont toujours eu de la difficulté à négocier du salaire, parce que, oh mon Dieu, hein, on part avoir des enfants. Fait que ça devrait justifier le fait qu'on... Parce qu'on a des enfants, on n'est pas supposé d'avoir un gros salaire. Il y a tous ces trucs-là qui sont des justifications qui ne devraient pas être. Et plus on parle d'argent, plus on va normaliser le fait que faire beaucoup d'argent, c'est correct. Mais surtout, faire beaucoup d'argent te permet de faire des choix qui sont de plus en plus alignés avec tes valeurs. C'est pas en faisant un salaire de crève-faim de 30 000 par année que tu vas pouvoir te payer des épiceries bio, acheter des commerçants locaux. Tu vas rester dans le cercle vicieux du Walmart. Et on veut sortir de ça le plus rapidement possible. Donc, il faut divulguer nos chiffres d'affaires, mais il faut arrêter de divulguer juste nos ventes. Et ça, je m'adresse à tous les entrepreneurs ici. C'est bien beau vos ventes, mais moi, je veux savoir aussi vos dépenses, vos bons coups et vos échecs. C'est important aussi de normaliser que l'argent est un échange et que parfois, financièrement, au niveau entrepreneurial, on a des très grandes contractions. Et ça, c'est ce qui est jamais divulgué sur les réseaux sociaux. On ne parle jamais de ces contractions-là financières. Et comme ça, tout le monde pense que c'est normal que quand tu te lances, admettons, dans l'industrie du coaching, tu fais 100 000 par année. Mais non, c'est pas net d'impôts dans tes poches. Puis ce n'est pas ton revenu non plus imposable. Fait que ça, c'est super important. Plus on va en parler, plus les gens vont être habitués d'entendre ces chiffres-là et vont les comprendre. Parce qu'en ce moment, je peux te dire, c'est quoi ton revenu brut, net et imposable? Tu vas me regarder et tu vas te dire, c'est pas la même chose? Non. Fait que je pense que plus on va en parler, plus les gens vont être conscients de ce que c'est et vont comprendre les chiffres. Et c'est, il faut se poser la question aussi, à qui ça sert d'être inconscient de notre argent? Ben, aux grandes multinationales. Parce que si vous commencez à encourager les entrepreneurs locaux et faire beaucoup d'argent, ben eux, ils feront plus d'argent sur votre dos.
Et ouais, plus on comprend comment jongler avec les différents concepts, plus on... c'est ça, dans le fond, notre pouvoir, tu sais. Notre pouvoir, c'est dans bien comprendre et ensuite être capable de les utiliser. Puis ça passe par comprendre les différents... processus financier, tu sais, que ce soit les investissements, les REER, les CELI, puis après ça, pousser, mais être intéressé aussi par ce sujet-là.
Oui, et puis il y a des sujets que vous avez le droit de ne pas être intéressé. Moi, là, les revenus locatifs, là, d'avoir des locataires, mis à part me donner mal au cœur, ça ne me donne aucune envie. Donc, j'ai décidé consciemment de ne pas m'informer là-dessus. Par contre, oh, la location de chalet court terme, ça m'intéresse. Mais allez, vers quoi ça... Qu'est-ce qui vous intéresse? Mais allez lire et écouter les podcasts à chaque semaine par rapport à l'argent et l'investissement conscient. Il y en a tellement de ressources, là. Il faut juste prendre le temps.
Dont le tien.
Oui!
Alors, où est-ce qu'on peut te suivre? Même si, bon, on sait que tu es déjà shadowban sur Instagram, mais toi, c'est ton podcast vraiment dans lequel on peut avoir un bel aperçu de tes pensées. Donc,
j'ai le podcast de douceur financière. Ah, je fais des épisodes solo tellement puissants qui risquent de vous trigger et c'est fait exprès pour ça. C'est sans aucune censure et j'ai aussi de plus en plus de magnifiques invités, dont toi, tu le sais pas, mais tu vas revenir dans ma saison 5. Donc, c'est ça, là, la saison 4, je venais d'accoucher. Donc, c'est que des épisodes solo de temps en temps quand j'ai l'espace. Puis, la saison 5 va commencer en juin. Et là, ça va être vraiment un épisode par semaine en duo. Et on va parler d'argent, 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 parce qu'il faut parler d'argent de plus en plus et encore plus en ce moment. Et c'est vraiment en ce moment le podcast qui est mon gros bébé. Et tranquillement, je vais aller vers le blog. J'aime beaucoup écrire.
Et je veux podcast renouer. Et blog, ça va si bien ensemble.
Ah, je veux renouer avec l'écriture et prendre le temps. Oui, donc c'est ça. Puis sinon, j'ai Lumania, qui est mon petit bébé, qui est en fait, on fait des séminaires aux 2 mois. On fait, et c'est des conférences en ligne présentement. Et là, la prochaine, c'est sur l'espace-temps. Donc, c'est vraiment hot.
Oh, wow!
Je prends comme des sujets que personne ne veut aborder et j'invite comme 25 conférencières et on parle de ça sans aucune préparation. Je demande aux filles pas avoir de PowerPoint et de ne pas être dans leur tête.
J'adore!
Je veux qu'elles arrivent et qu'elles disent tout ce qu'elles pensent sur le temps sans aucune structure. Et c'est...
Oh, my God!
C'est tout qu'un challenge. Il y a beaucoup de femmes qui refusent. Puis c'est parfait, parce que je pense qu'il faut être prête à enlever tous nos masques pour se lancer dans une expérience comme ça, qui est particulièrement stressante et angoissante. J'adore et c'est ça, je fais un séminaire à chaque 2 mois. Donc,
puis
voilà.
Tu le fais où? C'est comme, on s'inscrit?
C'est sur Zoom. Oui, tu peux t'inscrire, c'est lumania.ca, là, sur Instagram, il y a tous les détails. Puis vous pouvez vous inscrire, vous avez accès aussi au replay. En fait, c'est en live, c'est tout enregistré, puis après ça, il y a les replays.
C'est vraiment très cool comme concept. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je vais aller découvrir ça. Puis je vais juste le dire parce que tu as oublié de le mentionner, mais on n'est pas encore habitué à le dire, mais tu es sur Clubhouse.
Oui! Oh mon Dieu, mon bébé. Clubhouse.
C'est ça que je pensais que tu allais dire quand tu m'as parlé de ton bébé.
C'est vrai. Oui, mais en fait, Lumania, je l'ai créé sur Clubhouse aussi parce que c'est vraiment un endroit où c'est parfait pour les mamans. Parce que moi, j'allaite souvent.
Mm.
Et de juste parler sans vidéo, ça me permet d'avoir cet endroit-là. Et Clubhouse, en ce moment, n'est pas encore censuré. Oh my God! Marc n'est pas encore un actionnaire. Donc, un peu comme Telegram aussi, n'est pas encore censuré. Alors voilà, tant que Marc n'est pas actionnaire, on est correct. Ensuite, on changera. C'est tout.
Exact. On est fluide.
Mais oui.
Bon, ben Geneviève, ça a été une magnifique conversation. Merci beaucoup de tout ton apport, toutes ces réflexions, dans le fond, qui ont... Je pense que ça va avoir allumé beaucoup de choses dans la tête de celles qui l'ont écouté. Du moins, de mon côté, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je vais mettre tous les liens dont on a discuté. J'ai aussi des épisodes complémentaires à ce qu'on a discuté aujourd'hui qui vont... je vais vous les mettre aussi en lien de l'épisode, mais Geneviève, j'espère avoir la chance de te reparler super bientôt.
C'est merci. Ça. Sur Clubhouse.
Sur merci. Clubhouse. Merci. Et je te souhaite une belle journée.
Merci.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarc.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!